Vous écoutez
RMC.
RMC.
Quand je dis que l'entraîneur et le mari, c'est le dernier à savoir la chose, si elle est avec le corne, comment ça s'appelle?
Coucou.
Si elle est coucou, c'est le dernier à savoir la chose.
C'est vrai que Ranieri fait un peu penser à Guy Lacombe.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, j'espère sinon que vous avez vécu le dénouement de la saison régulière de Top 14. On s'est régalé. Place au foot maintenant. On va évidemment revenir sur l'équipe de France. Est-ce que la défense est le point faible des Bleus? Les Bleus qui ont été battus 2-1 face à la Côte d'Ivoire, vous le savez. Et puis qu'est-ce que vous attendez des grandes nations? Parce qu'il y a eu des surprises déjà avec cette défaite de la France, avec le match nul également de l'Espagne. Tout le monde est en phase de préparation avec l'objectif évidemment de briller lors de ce mondial au Mexique, aux États-Unis et au Canada. À mes côtés ce soir, nous avons Maxime Chano et Florent Gautreau. Bonsoir messieurs.
Salut Karine, salut Flo, salut à tous.
Salut Karine, salut Max, salut à tous.
Et messieurs et mesdames d'ailleurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui et tout le week-end sur RMC, vous allez pouvoir remporter votre album Panini Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et 350 stickers. Oui, vous avez bien entendu. Toutes les 30 minutes, il y a un gagnant qui est tiré au sort. Vous envoyez dès maintenant Panini au 732-16. Panini au 732-16. Et vous repartez donc avec votre album et 350 stickers. Bonne chance à tous! Les événements continuent évidemment sur RMC. Vous le savez qu'on est partenaire et diffuseur officiel de la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet. Nous serons notamment délocalisés à New York pour vous faire vivre cette Coupe du Monde, la première à 48 équipes. Et puis demain, il y a une émission également exceptionnelle. Vous retrouverez Gilbert Bribois et des gloires du football sénégalais en direct de Dakar. Pourquoi? Parce que le premier match de cette Coupe du Monde pour nous Français, ça sera évidemment le France-Sénégal le 16 juin. Et à 9 jours de ce match, on vous propose une émission exceptionnelle en direct de l'Institut français. L'entrée est libre et gratuite, donc n'hésitez pas à y aller. C'est à partir de 18h, heure locale, et ça sera donc à 20h en direct sur RMC, heure française. Il y aura Souleymane Diawara et de nombreux acteurs du football local et des anciens internationaux. La soirée s'annonce très belle pour lancer complètement cette Coupe du Monde. Messieurs, on va revenir également sur l'actualité. On parlera également de Philippe Montagné, qui n'est plus l'entraîneur de Saint-Etienne, lui qui a pas réussi à faire monter Saint-Etienne en Ligue 1. Mais on va commencer par l'actualité. Vous le savez, les Bleus ont deux matchs de préparation. Il y a eu le premier round, c'était face à la Côte d'Ivoire avec cette défaite de 2-1. Et puis, il y aura lundi l'Irlande du Nord, Côte d'Ivoire, qualifiée pour la Coupe du Monde. L'Irlande du Nord, c'est pas le cas. Et c'est effectivement un choix qu'on retrouve dans beaucoup de nations. Il y en a beaucoup qui ont fait un premier match face à une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde et une deuxième qui ne s'est pas qualifiée. Il y a deux buts qui ont été inscrits par l'adversaire, les Ivoiriens. La France qui a été une nouvelle fois perméable. Cette question, Maxime, toi qui es un ancien défenseur, est-ce que la défense finalement est le point faible des Bleus alors que depuis quelques mois on met l'accent justement sur notre vivier notamment offensif?
Le point faible, ça serait une expression qui serait quand même assez forte. Ce qui est vrai, c'est que Deschamps a décidé de quand même porter sa tactique vers l'attaque avec ce quatuor offensif. On en a assez parlé et c'est vrai qu'en alignant toutes ces stars entre guillemets et tous ces offensifs, normalement, légitimement, en fait, tu crées un déséquilibre. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à penser que la défense c'est uniquement les quatre défenseurs et le gardien de but, mais non, pour avoir été un défenseur comme tu l'as dit Karine, tu as besoin d'un bloc, tu as besoin de défendre en équipe. Donc en effet, c'est vrai que quand j'ai regardé ce match de l'équipe de France, et tu peux même faire le constat sur les derniers matchs amicaux où est-ce que la France a souvent encaissé des buts, c'est vrai que ça contraste un petit peu avec la force de l'équipe de France sous Didier Deschamps depuis qu'il a pris son poste en tant que sélectionneur, où est-ce qu'il s'appuyait sur une défense de fer. Donc là c'est vrai que tu regardes un petit peu, la France est un petit peu friable individuellement aussi, on peut revenir sur certains postes. Alors certes, Saliba était blessé, donc c'est Konaté qui l'a remplacé. J'ai pas été très très convaincu par Konaté, mais un peu à l'image de sa saison avec Liverpool. Et puis là où j'ai un gros point d'interrogation, évidemment, c'est sur le poste d'arrière gauche, que ça soit Théo Hernandez qui m'a absolument pas convaincu en première mi-temps, Lucas Digne qui n'a pas fait mieux en deuxième mi-temps. Les deux buts d'ailleurs viennent de son côté. Voilà, ça met peut-être aussi en perspective et ça donne un peu plus d'importance au débat qu'on avait eu avant la sélection de Didier Deschamps de ne pas avoir sélectionné Mathieu Hudol, par exemple, Lensois, qui a fait une très très bonne saison en tant qu'arrière gauche. Voilà, ça, c'est un débat qui reste ouvert. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de penser que Deschamps a vu les lacunes entre guillemets de son équipe en encaissant encore une fois des buts, en prenant des contre-attaques. C'est vrai que Upamecano a éteint pas mal de débuts d'incendie. Sans Upamecano, je suis pas sûr que le score serait resté à 2-1. J'essaie de rester optimiste. Je me dis que c'était le premier match de préparation, entre guillemets, avant cette Coupe du Monde. Mais attention, il va falloir aller vite parce que la Coupe du Monde approche bientôt.
Florent, quelle est ta lecture par rapport effectivement à ces Bleus qui ont pris, par exemple, un but face à l'Azerbaïdjan, qui n'est évidemment pas une grande nation, face à l'Islande. Il y a eu un 2-2. Il y a eu également un 2-1 en faveur de la France face à l'Islande. Les Bleus gagnent, globalement, hormis cette défaite jeudi soir, mais encaissent des buts. Et c'est quand même des problèmes récurrents. Et notamment, on va en parler du côté gauche avec finalement que ça soit Hernandez ou Lucadine, il n'y a pas de numéro 1 réellement qui se dessine.
Oui, en fait, moi, je suis un peu comme Maxime. Moi, je suis assez inquiet parce que, en fait, l'Euro 2024 est un bon exemple de ce que Deschamps avait construit en termes de solidité défensive. On se souvient, c'était malheureusement l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment offensivement de satisfaction. C'est une équipe un peu triste, mais qui était très, très solide. Et tout le monde le disait. C'était des rocs. Et il n'y avait vraiment aucune possibilité pour passer à côté. Là, c'est pas le cas. En fait, effectivement, il y a une grosse incertitude déjà sur Saliba. Et s'il n'y a pas Saliba ou Upamecano qui reste quand même la charnière titulaire, et c'est possible que tu commences le mondial sans Saliba, c'est pas du tout la même histoire, parce que comme l'a dit Max, en fait Konaté, ça fait déjà plusieurs mois, même j'irais même une dizaine de mois qu'il n'est plus le Konaté qu'on a connu.
Et sa saison a été compliquée avec Liverpool.
Oui, alors en plus compliqué perso, parce qu'il y a le décès de Diogo Jota, le décès de son père, il y a eu des tas de problèmes, mais en plus de ça, parce que ça c'est la charnière, il y a les côtés. Parce qu'en fait, Emers Faye a dit un truc, je sais pas si vous avez remarqué après le match, il a dit écoutez, on savait qu'il fallait faire un pressing plus haut, mais surtout, on avait identifié leurs problèmes, on va dire, sur les côtés. Et on l'a vu, le problème sur les côtés, parce que vous parlez de la gauche, mais moi j'ai vu aussi la droite. C'est-à-dire que moi Koundé, il m'a pas convaincu du tout sur ses premières interventions, beaucoup d'erreurs, pas très concentré. Et moi, c'est vrai que, évidemment, on a toujours envie un peu de changer dans ces cas-là. Moi, j'ai envie de voir du Zaïre Emery là-dedans. Moi, je n'avais pas été convaincu non plus par Digne derrière Théo Hernandez. Donc, c'est vrai que côté gauche, mais là, on a un peu tout exploré en solution. J'ai pas été convaincu non plus. Quand je rajoute ce que je viens de dire sur la charnière centrale, comme tu dis, Karine, oui, on prend des buts. Mais surtout, c'est l'ensemble du secteur défensif. Parce que ce que dit Max, c'est vrai, c'est pas que la défense. Ce qui s'est passé dans le match contre la Côte d'Ivoire, c'est des pertes de balles de Rabiot et de Tchouaméni au milieu de terrain. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que ce qui a fait la force de Deschamps et de l'équipe de France pendant longtemps, c'est-à-dire une solidité globalement et puis des flèches devant, il semble vouloir faire autrement avec ses quatre offensifs, entre guillemets lui-même se déséquilibre, il est un peu plombé peut-être par quelques individualités. Donc oui, pour moi il y a inquiétude.
Ouais. Par rapport au poste d'arrière-gauche, on sait qu'il y a quand même une vraie incertitude. Sur les 10 derniers matchs, 5 titularisations pour Théo Hernandez, 5 pour Lucas Digne. Donc pour l'instant, et on le sait, hein, le Didier Deschamps s'interroge toujours. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait un choix entre ces deux-là, ou est-ce que aussi on ne pourrait pas repartir sur Lucas Hernandez? C'est aussi une option.
Vu la saison qu'il a fait au Paris Saint-Germain, et d'ailleurs sa rentrée contre la Côte d'Ivoire a été axe gauche, me semble-t-il. Non, je pense pas que Lucas Hernandez aura son mot à dire, en tout cas en tant que titulaire à gauche. Alors après, évidemment, sauf catastrophe, et évidemment si son frère devenait à se blesser, et Lucas Digne, oui, Lucas Hernandez a été sélectionné pour pouvoir jouer à ce poste derrière gauche. Moi je me pose quand même la question sur cet équilibre, en fait, parce que Flo, tu l'as dit très justement, tu me parlais de Koundé qui a pas été resplendissant, je suis d'accord avec toi. Par contre, on a eu ce débat hier. Toi, tu mettrais Zaïre Emery en tant que numéro 2 devant Malo Gusto. Je te parle de ça parce qu'en fait, tout va dépendre aussi de
l'équilibre. Même numéro 1, il voudrait le voir titulaire, Flo, non?
Bah, en tout cas, il voudrait le voir titulaire, mais tu es d'accord avec moi, Koundé a quand même un temps d'avance dans la tête de Didier Deschamps. Mais
moi, je te dis bien que Deschamps va sans doute mettre Koundé titulaire, mais on va voir.
Mais je pense que dans la tête de Deschamps, tu penses que Zaïre Emery serait numéro 2 derrière Koundé devant Malo Gusto? Je te dis ça parce qu'en fait, on parlait d'un équilibre.
Vu l'erreur sur le but d'ailleurs de Malo Gusto.
C'est vrai, oui, il n'a pas été très très bon. Je suis d'accord avec toi aussi, l'image de sa saison à Chelsea qui a été un petit peu compliquée. Mais je te parle de ça parce qu'en fait, je me dis qu'en fonction de qui va choisir pour potentiellement remplacer Koundé, en fait, ça va permettre de créer un équilibre ou un déséquilibre. C'est important d'avoir un arrière-droit qui est en mesure de pouvoir vraiment défendre, type Gilles Koundé, quand de l'autre côté, tu décides de mettre Théo Hernandez qui est un peu plus porté vers l'avant. C'est la raison pour laquelle je te pose cette question. Je pense que Didier Deschamps a évidemment abandonné, entre guillemets, son idée de défendre en bloc comme il a fait sur les dernières saisons. Pour autant, je pense qu'il est assez intelligent de savoir que tu gagnes une Coupe du Monde et une grande compétition en ayant un équilibre défensif. Et c'est vrai que de faire rentrer, par exemple, Malo Gusto à droite, puis Théo Hernandez à gauche, ça serait complètement suicidaire parce que là, tu laisserais complètement tes deux arrières centraux sans vraiment assise défensive à côté d'eux. Donc, c'est la question que je me posais, que j'ai envie de te poser. Ouais. Et je te rejoins par rapport à ça. Je pense que si Koundé devait sortir, Deschamps privilégierait encore une fois un joueur avec un peu plus de qualité défensive, donc Zaïre Emery, plutôt qu'un Malo Gusto qui est quand même porté vers l'avant.
Moi, je pense qu'effectivement, l'avantage de Zaïre Emery apportera des chances qui lui manquent en ce moment, c'est de la solidité. Il aime la solidité des gens. Ouais. Donc moi, je pense que si c'est fragile, dès le premier match, s'il fait avec Koundé et que Koundé se montre un peu hésitant, je pense qu'effectivement, Zaïre Emery derrière a ses chances. Ouais, la deuxième chose, c'est la constitution de la liste. Et là, t'as raison. Moi, la seule chose qui me gênait dans cette liste, que je trouve plutôt sympa, globalement, c'était les deux frères Hernandez. Pour des raisons différentes, pour les deux. J'ai pas été évidemment toujours convaincu par Lucas au PSG, encore qu'il fait une bonne fin de saison, et j'ai pas été, enfin, je suis pas du tout d'accord avec la sélection de Théo Hernandez. Et c'est vrai que en prenant ces deux-là, tu te prives de ceux dont t'as parlé, les Udol et compagnie, Truffert, je sais pas Truffert que sais-je, oh oui, par exemple. Raison. Donc en fait, là, moi, je trouve que autant à droite, il a des solutions, elles sont, voilà, elles existent. Autant moi, je trouve qu'à gauche, t'es bloqué. Ouais. Et donc dans ce cas-là, moi, je mets Lucas Digne. C'est-à-dire que moi
oui, mais Flo, Lucadine, il est bon en club, mais notamment en équipe de France. Parfois, il a été plutôt bon, mais sur ses derniers matchs, il a pas saisi sa chance, alors qu'on avait l'impression qu'il y avait un vrai boulevard. Théo Hernandez est parti en Arabie Saoudite. Il a fait des matchs quelconques. Il a parfois provoqué des fautes grossières en poussant les joueurs dans le dos, etc. Et il saisit pas une opportunité qui paraît énorme.
Après, je pense qu'il a aussi le contre-coup de sa saison à Aston Villa. Alors, il était très bon sur les 10 derniers matchs. Il a été un peu mieux. Mais c'est vrai que Lucadine, ça a été un petit peu compliqué, hein, cette saison en première ligue. Donc, est-ce que ça l'a impacté aussi en équipe de France, mais je suis d'accord avec toi. Il avait la possibilité vraiment de s'installer pour cette Coupe du Monde et finalement, à quelques jours du début de cette compétition, finalement, il n'y a aucun vrai titulaire qui sort de cette dans la tête de Didier Deschamps. Et c'est ça que c'est. En fait, et ça montre un petit peu les carences qu'on a défensives. Et c'est vrai que on l'a très justement dit, mais l'équipe de France a eu ce succès, en tout cas sur les 10-12 dernières années, et bien avant d'ailleurs, hein, sans parler de la Coupe du Monde 98 et j'en passe, grâce à son assise défensive. Et c'est vrai que là, moi, je remets aussi en perspective et je me pose la question, Flo, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Didier Deschamps, lui qui a été si pragmatique, lui où on sait évidemment que c'est aussi sa dernière grande compétition. Alors je comprends le matos qu'il a, les offensives qu'il a, mais est-ce que tu penses qu'il est prêt à mettre en avant le beau jeu, le football champagne entre guillemets, plutôt que ce qu'il a quand même pas mal réussi sur ces dernières années, c'est-à-dire une assise défensive. Et moi je suis très très surpris de voir Didier Deschamps jouer de cette manière, hein. Je vais être très honnête avec toi.
On va continuer d'en parler, hein, dans quelques instants. On parlera également des tensions, parce que évidemment les Bleus s'apprêtent à jouer un mondial du 11 juin au 19 juillet. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des problèmes au niveau des primes des Bleus. Et puis, il y a des nouvelles tensions également concernant l'image de certains joueurs qui est associée à des sites de paris sportifs. On vous explique tout dans quelques instants. C'est évidemment pas la meilleure des manières pour préparer ce mondial qui commence, on le rappelle, le 11 juin. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
23h22, on est en direct du studio Roland Courbis sur RMC avec Maxime Chano et Florent Gautreau. On parle de l'équipe de France. On va conclure sur l'aspect défensif et puis on va parler des petits couacs, parce que vous le savez, c'est important la vie de groupe, c'est important de préparer un mondial dans les meilleures conditions. Eh bien, il y a des sources de tension. On va tout vous expliquer dans quelques instants. Mais Flo, tu voulais effectivement conclure sur l'aspect défensif des Bleus.
Oui, non, juste pour répondre à ce que disait Max à l'instant, c'est vrai que j'imagine mal Deschamps tout bouleversé maintenant. Or, c'est vrai que ça va être un sujet de réflexion pour lui. Si Saliba n'est pas là, déjà faut qu'il choisisse, parce que Konaté n'est pas forcément à la hauteur. Il a déjà un choix là. Alors on sait que Konaté est son choix numéro un derrière Saliba, mais il peut se poser une question. Ça fait déjà un truc. Deux, on l'a dit sur le latéral, Koundé, il va évidemment le mettre. Mais on voit que derrière, il y a Zaïre Emery qui pousse à la porte. Et effectivement, côté gauche, là aussi, il y a une question. Alors évidemment, comme c'est Deschamps, t'attends pas à avoir Zaïre Emery, Maxence Lacroix dans l'axe et Digne, par exemple, côté gauche, dès le premier match. Sans doute que non. Mais je pense quand même que de savoir qu'il y a autant de réflexions sur autant de postes dans un secteur qui normalement était assez costaud, solide, faut quand même se souvenir, juste un dernier truc, qu'avant 2018, il a quand même changé ses latéraux peu de temps avant la Coupe du Monde.
C'était la double surprise, les deux côtés.
La double surprise. Vrai, et moi, quelque part, de voir que là, débarquer Zaïre Emery, par exemple, alors Digne, ce serait pas une surprise, hein, on va dire, mais quand même, Zaïre Emery, Digne versus Théo Koundé, pour moi, ce serait pas une dinguerie.
Et je suis pas sûr que tu perds en qualité en plus, hein. Je suis d'accord avec toi, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que de mettre Zaïre Emery arrière droit, alors que c'est quand même pas son poste naturel, même s'il a très bien fait cette saison. au Paris Saint-Germain. Ouais, à voir, on ne sait jamais avec Didier Deschamps. Moi, je voulais aussi rebondir sur Konaté et puis évidemment l'absence de Saliba, parce qu'on parle souvent de l'aspect défensif quand l'équipe n'a pas le ballon. Mais je parle aussi, moi, j'ai envie d'en mettre en avant quand l'équipe a le ballon, et en l'occurrence quand il s'agit de ressortir par derrière. Et c'est vrai que Saliba a cette opportunité et cette possibilité de pouvoir jouer axe gauche et de trouver des angles de passe, qui n'est pas forcément le cas quand Konaté joue, parce que ça veut dire que Upamecano décale à gauche et Konaté vient à droite. Et c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a une carence à la ressortie de balle quand Saliba n'est pas là.
On va évidemment continuer de parler de l'équipe de France. Tu parlais des changements de 2018. C'est vrai que ça avait été la double surprise. On s'était retrouvé avec Benjamin Pavard et Benjamin Mendy titulaires à droite et à gauche, alors que c'était pas eux qui avaient amené les Bleus à cette qualification pour la Coupe du Monde. Et au final, ça avait très bien marché pour les deux
Pavard
joueurs.
Pavard et Hernandez.
Ouais, Hernandez, ouais, qui était passé devant Mendy.
Ah oui,
Hernandez,
qui était passé devant Mendy.
Sidibé, ouais, qui avait sauté aussi.
On va parler des problèmes qu'il y a en bleu. Parce qu'effectivement, le groupe vit bien, l'ambiance est bonne. Mais voilà, il y a encore des choses à régler avant la Coupe du Monde. Le premier match, ça sera le 16 juin pour les Bleus face au Sénégal. Et que se passe-t-il ? Il y a plusieurs soucis. Il y a une publicité de la Discord juste avant la Coupe du Monde. Il y a Mbappé et plusieurs joueurs de l'équipe de France qui sont crispés par l'utilisation de leur image sur un site de Paris Sportif. En fait, l'un des sponsors de l'équipe de France, c'est le site de Paris Sportif Betclic. Et cette image qui est associée à eux, notamment celle de Mbappé et de Cherki, ne plaît pas aux deux intéressés. Il y a 5 joueurs en tout qui sont affichés sur cette publicité. Et donc, il y a un problème par rapport à ça. On rappelle que d'ailleurs, Kylian Mbappé avait déjà expliqué par le passé qu'il ne voulait pas que son image soit liée à des sites de Paris Sportif, parce qu'il parlait effectivement du danger des paris et du problème évidemment d'addiction que ça peut entraîner. Donc c'est pas nouveau du côté de Kylian Mbappé, mais là visiblement leur droit à l'image poserait question, parce qu'ils n'ont pas été concertés. Et puis il y a un autre problème également, c'est Philippe Diallo, vous le savez, il y avait une assemblée générale de la FFF ce samedi. Il a dit que tout allait être finalisé au niveau de la prime des Bleus pour la Coupe du Monde, parce que ce n'est toujours pas le cas. Et il y a aussi un autre problème, c'est ce qui est alloué aux joueurs. Là, a priori, la FFF a des petits soucis d'argent, donc on vous parle de 2 places gratuites par joueur et de 6 places qui peuvent être achetées par les familles, par les joueurs, etc. Donc finalement, un contingent qui est très petit.
Ouais, mais
Maxime,
c'est
toi,
un faux débat. C'est un faux débat.
Mais attends, mais Maxime, je vais te rappeler qu'en 2014, par exemple, quand l'équipe de France est partie au Brésil, il y avait eu des tensions parce que les familles avaient été pas très bien accueillies dans l'hôtel. Il y avait des problèmes de produits périmés, etc. Et même la personne qui s'occupait des familles avait été déclassée après, et ça avait fait des soucis parce qu'effectivement, les joueurs, au lieu de se focaliser sur leur performance, devaient gérer leur famille, et c'est bien normal. Et toi qui as été joueur, quand t'entends parler de tout ça, tu te dis que c'est des faux problème. T'as jamais été appelé par des membres de ta famille, proches, en disant attends, je galère, je veux des places, tu devais t'occuper de ça. Et toi aussi, t'as dû gérer les primes.
Mais bien
tu
sûr.
Voulais avoir les primes
mais
le plus élevées possible.
Ouais, d'ailleurs, c'était moi qui avais le brassard, donc j'ai géré les primes, que ce soit en club ou en équipe nationale, donc je sais de quoi ça parle. Mais alors, là où je te rejoins, c'est en effet, c'est finalement des problèmes qui n'ont pas lieu d'être à quelques jours du début de la compétition. On sait qu'en règle générale, on aime que les joueurs soient concentrés sur le terrain. Et c'est vrai qu'en parlant de ce genre d'extra, entre guillemets, tu peux perdre un petit peu d'influx nerveux, et puis tu voilà, au lieu de te concentrer sur le terrain directement, et bien ça t'impacte. Voilà, ça c'est une première chose. Moi, je veux quand même remettre dans le contexte. Alors, on parle de 2 places gratuites, 2 tickets gratuits pour les familles. Ok, jusqu'à là, c'est vrai que c'est très peu, mais on leur propose 6 autres tickets que eux doivent payer. C'est différent si jamais il n'y avait pas de tickets.
Mais le problème, c'est que c'est très peu quand même.
Bah, 8 tickets, ça suffit. Car
ah ben
écoute-moi,
les
moi,
demandes
je sais
sont
que
beaucoup
moi,
plus importantes.
Oui, peut-être, mais bon, il y a une réalité aussi. Tu peux pas avoir 20 tickets, sinon tu les achètes toi-même. Moi, je sais qu'avec l'équipe nationale du Luxembourg, j'ai le droit 4 tickets gratuits et 4 tickets que je pouvais payer. En tout, ça faisait 8. Si je voulais garder les 4 tickets, bah, je les prenais. Et puis, si je voulais avoir plus de gens de ma famille dans les tribunes, eh bah, ben, je payais un petit peu de ma prime de match. Bon, écoute, on va pas revenir sur un débat financier parce que je pense pas que ça soit le cas ce soir. Mais
toi, tu te battais
ont...
pour avoir la prime la plus élevée aussi,
mais bien
Maxime.
Sûr, mais j'en suis conscient, Karine. Mais là, on est en train de parler sur des centaines d'euros à sur des joueurs qui font des salaires en milliers, en centaines de milliers d'euros. Bon, écoute, ils sont en mesure de pouvoir payer 4 tickets supplémentaires. Je le répète une dernière fois, ça aurait été différent s'ils n'avaient eu uniquement deux tickets disponibles pour leur famille, des gens qui ont des enfants, alors, okay, des mères, tickets, des pères.
Mais les primes, c'est un problème aussi, ça discute toujours.
Les primes, par contre, je suis d'accord avec toi que ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On parle d'un manque de moyens financiers de la fédération. On parle aussi d'un hôtel qui leur a coûté, excuse-moi, la peau des fesses. Hein,
à Boston, le Four Seasons qui coûte très cher parce qu'ils l'ont, on rappelle, donc privatisé et ça a un coût, évidemment.
Donc c'est vrai que ça a un coût, voilà. Bon, écoute, je trouve que c'est vraiment des considérations qui n'ont pas lieu d'être à quelques jours de la Coupe du Monde.
Mais c'est la réalité, ça
c'est la réalité. Est-ce que c'est mal géré par la fédération ou est-ce que les joueurs sont des gamins gâtés? Je pense pas. La vérité aujourd'hui, c'est le terrain qu'il faut prioriser, excusez-moi. Et dans ce cas-là, mettons les autres choses de côté, sinon tu t'en sors pas.
Moi, le problème de tes trois sujets que tu as soulevés, que ce soit droit à l'image, prime ou invitation, tu as raison, Karine, c'est pas bon. Et qu'est-ce qui n'est pas bon là-dedans? C'est surtout l'impréparation, moi, qui me gêne. C'est pas que ces problèmes se posent. Que les problèmes se posent pour les primes, par exemple, j'hallucine. On est le 7 juin. J'hallucine qu'à 4 jours du départ pour la Coupe du Monde et qu'à quelques jours du premier match, on soit encore à parler des primes. Outre qu'effectivement, par rapport à ces joueurs-là, les joueurs feraient mieux d'être un peu plus entre guillemets discret. Je parle là en termes de communication et médiatiquement, mais ça c'est encore autre chose. Mais plus globalement, que ce soit les places, que ce soit les primes, mais surtout les primes, je trouve que de voir que le 6-7 juin ça n'est pas réglé et que je vois Philippe Diallo qui dit je les ai eu au téléphone, ils m'ont fait une proposition, on va se reparler en début de semaine. Non, attendez les gars, pour moi ça fait fédération de bas étage. Ouais. Donc je trouve que ce qui me choque le plus, outre que effectivement ces histoires de primes par rapport à ces joueurs-là, j'ai pas trop envie d'en entendre parler en réalité, mais surtout c'est le fait que ce soit pas déjà réglé alors mais que tu as un deuxième match de prépa et le départ pour les USA.
Mais tu sais que je pense que c'est aussi une tactique, hein. C'est une tactique de la part des joueurs justement d'attendre un maximum et de mettre la pression finalement sur la fédération, hein, puisque le temps joue en leur faveur.
Il y a les deux côtés, il y a la Fédé qui est en difficulté financière, donc c'est aussi une tactique de la Fédé.
Difficulté financière, excuse-moi Karine, c'est pas possible qu'une fédération puisse être en difficulté financière.
Oui,
dans ce cas-là, tu prends pas un hôtel à je sais pas combien la nuit et puis tu réduis un petit peu de manière à pouvoir payer les primes de tes joueurs. Moi, ce que je pense, c'est que les joueurs, plus ils attendent et plus ils vont être en position de force, parce qu'évidemment, ça n'arrivera jamais, encore moins avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais si les joueurs brandissent un petit peu la menace de si on n'a pas nos primes, il y a possibilité qu'on vous ennuie un petit peu la fédération, je pense que la fédération va vite tomber d'accord avec les joueurs et dire écoutez, on vous donne ce qu'on veut, ce que vous voulez. Hein.
On va continuer d'en parler un flot dans quelques instants.
Un petit mot, Karine, juste pour te donner raison, c'est le genre de petites choses, quand ça se passe moins bien en termes de résultats, par exemple sur le premier match, qui peut évidemment polluer le début d'une Coupe du Monde. Tu as tout à fait raison. Ouais.
Et ça a déjà été le cas également par le passé. On va parler aussi de cette histoire de droit à l'image, parce que les joueurs, c'est vrai que par le passé, on ne leur demandait pas forcément leur avis. Aujourd'hui, ils ont des convictions aussi. Là, ils les font entendre et donc ça bloque au niveau de certains partenaires. On est ensemble sur RMC jusqu'à minuit dans l'After Foot. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Karine Galli.
On est ensemble jusqu'à 23h34 sur RMC. C'est l'After Foot avec Florent Gautreau et Maxime Chanot. On parle des Bleus et notamment des petits couacs avant de commencer cette Coupe du Monde. Et on va revenir sur une information qui a été publiée par l'équipe ce soir. Elle concerne donc l'image de certains joueurs qui est associée à un site de paris sportif. Les 5 joueurs qui font partie de cette publicité, c'est Kylian Mbappé, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué. Donc on est d'accord que ce sont des joueurs très forts des Bleus. C'est pas, j'ai rien contre Maxence Lacroix, mais par exemple, c'est pas Maxence Lacroix ou Robin Rissert, c'est vraiment les têtes de gondole des Bleus. Et il y en a notamment deux, Mbappé et Cherki, qui feraient partie de ceux qui ont le moins apprécié cette association de leur image, parce qu'ils ne veulent pas, évidemment, promouvoir des paris sportifs, et ça s'entend. Florent, ça c'est pareil. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, en 2026, les joueurs n'aient pas droit au chapitre, alors que Kylian Mbappé, par le passé, s'est déjà vraiment exprimé sur tout ce que peut engendrer l'addiction au paris sportif et le fait qu'il ne voulait pas que son image soit associée à ça.
Ouais, ça c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'il avait clairement, il était monté au créneau très très clairement sur ce sujet-là et que la Fédé en gros avait assuré que ça ne se reproduirait plus parce qu'en fait c'est l'histoire, c'est que ils donnent un peu leur image à la Fédé. Et puis après, il y a des contrats avec des sponsors. Après, évidemment, ils peuvent donner leur avis sur le type de sponsor. C'est ce qu'avait fait Mbappé. Mais c'est vrai que sur le fond, c'est assez curieux, sachant que Mbappé avait déjà exprimé cette idée-là. Tout ça, puis pour revenir à ce que tu disais juste avant, c'est qu'effectivement, c'est hallucinant. Mais c'est hallucinant dans cette histoire. Moi, c'est ça qui me frappe. D'amateurisme, en fait. C'est-à-dire que tu es dans une fédé où, tu sais, on se moque à la CAN quand il y a des soucis. Il y en a eu encore récemment avec des tions africaines, par rapport aux primes, par rapport à ces sujets-là. Mais là, on a, comme tu l'as dit, une concomitance de différents problèmes. Alors, les places, je mets ça un peu à part. Je trouve que c'est quand même un peu anecdotique quand même. Mais en revanche, les primes et le droit à l'image, sachant que Mbappé avait été clairement monté au créneau. Oui, c'est un souci. Parce que c'est vrai que tu as l'impression que ces trucs-là ne sont pas gérés, en tout cas pas gérés correctement.
C'est vrai que ça aurait pu être géré avant.
Et en tout cas, c'est vrai que, surtout, ce qui me frappe, c'est que tu es dans vraiment la dernière ligne droite de la prépa, avec plus qu'un match amical, et que tu as ce genre de sujets, surtout, qui sont dans la conversation. C'est-à-dire que là, nous, on a commencé l'after en parlant de la défense des Bleus, et nous, on a l'impression que les Bleus, ils s'occupent des places, des primes et du droit à l'image. T'as envie de leur dire, les gars, il y a une compète quand même. Mmh. Et à mon avis, même si on nous annonce favoris, il n'y a rien d'évident à ce que la France aille au bout dans les conditions actuelles.
C'est sûr que ça va pas les aider à se concentrer sur le terrain. Et puis finalement, quelle est la résultante, entre guillemets, de toutes ces situations? C'est qu'en fait, la situation, elle se tend entre la fédération et les joueurs. Alors c'est important de mettre en avant que tous les joueurs sont rangés derrière leur cause, c'est-à-dire la cause du droit à l'image sur Kylian Mbappé et Cherki, qui sont un petit peu montés au créneau. Par contre, ils ont convenu qu'ils ne feraient pas de vague juste avant le début de la compétition, mais ils se réserve le droit de contester après la compétition. Ça, c'est quelque chose qui a été annoncé. Donc, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On verra ce que ça donnera en fonction aussi des résultats sportifs. Mais je pense que les joueurs, justement, ont appris un petit peu de ce qui s'est passé. On en a parlé par rapport en Afrique du Sud. Ils ont compris qu'aujourd'hui, le sportif doit passer en premier, qu'il y a l'image, évidemment, de cette équipe de France et de la France, de la nation qui est en jeu. Mais c'est vrai que la fédération, là, honnêtement, je me pose la question sur la manière de gérer la situation. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu le faire avant? Parce qu'on le redit très, très justement, mais quand tu es joueur, c'est déjà tellement prenant une compétition comme celle-ci, on sait qu'il y a énormément de bonnes équipes, on sait que le niveau va être très très élevé. Est-ce que les joueurs ont besoin encore de gérer de l'extra-sportif alors qu'ils savent très bien que sur le terrain ça risque déjà d'être compliqué? Voilà, je me pose la question quant à la gestion de ces événements par la Fédé, en effet.
Ce qui est dingue, c'est qu'en 2022, suite à la première polémique, on va dire, sur ces droits à l'image, la Fédé avait revu sa convention sur les droits à l'image. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, puisque sur ce sujet précisément, a priori, il y avait une nouvelle convention. Mais c'est vrai que là, la campagne publicitaire qui est sortie là récemment, et je comprends dans ce cas-là, s'il y a une nouvelle convention et si c'est un sujet qui avait déjà été abordé avant, je comprends que ça puisse provoquer l'agacement des joueurs en question.
C'est vrai que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, et c'est dommage qu'on parle un peu plus de l'extra sportif que du sportif. Ouais, je suis d'accord avec toi, Flo.
Après, messieurs, il y a quand même aussi plus globalement, et j'entends quand Kylian Mbappé dit « Nous, on est censés être des exemples. » Moi, je suis pas d'accord avec cette idée que des footballeurs sont des exemples ou des acteurs ou des choses comme ça, mais eux, ils partent de ce principe-là. Et donc, ils ont pas envie que leur image soit associée à la malbouffe, parce qu'il y avait aussi la question de la malbouffe, ou à des sites de paris sportifs. Mais c'est aussi la responsabilité de la Fédé de choisir ses sponsors, Flo. Je veux dire, il y a quand même énormément de sponsors possibles. Tu peux éviter les paris sportifs qui font des dégâts monstrueux et la
malbouffe. Alors là, je suis moins d'accord.
Pourquoi ?
Moi, je dirais que... Non, je veux dire par là que quand tu fais du business et la Fédé, comme tu l'as dit tout à l'heure, a des soucis financiers et doit avoir les meilleurs revenus marketing, tu deals avec les entreprises avec lesquelles tu peux dealer. Après, si tu es clair avec les entreprises en disant « Attention, vous n'aurez pas Mbappé, vous n'aurez pas un tel et un tel », peut-être qu'elles vont dire, dans ce cas-là, on vient pas. C'est là où je te dis, si la convention est claire, puisqu'apparemment Mbappé l'avait fait clairement comprendre, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. En revanche, que la Fédé aille chercher toutes les entreprises possibles, que ce soit McDo, puisque tu parlais de bouffe, ou que ce soit des sites de paris sportifs, moi aujourd'hui, je suis pas choqué du tout que la Fédé fasse appel à des sites de paris et des sites de paris sportifs. Je veux dire, c'est la vie, c'est la réalité. Après, il y a des organismes qui gèrent ça en France pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'addiction, que les jeunes soient protégés. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je suis pas choqué que la Fédé aille sur ça. Je suis en revanche je suis intéressé par le fait que certains joueurs soient vigilants et le fassent écrire dans des conventions. Maintenant, c'est évident qu'un gros sponsor pourrait dire, bah non, moi si j'ai pas Mbappé, Olise et Cherki, je veux pas venir signer le contrat de sponsoring, bah tant pis, tu vas chercher et tu vas démarcher quelqu'un d'autre. Là, ce qui me gêne, c'est qu'apparemment c'est pas très clair. Je comprends. Si ça a été dealé avant, je comprends que les joueurs soient pas d'accord. Mais en revanche, je critiquerai pas la Fédé sur le fait d'aller chercher le partenaire le plus rémunérateur.
Quand Mbappé disait on est l'équipe de France, on inspire, effectivement, lui, donc il avait déjà dit qu'il n'avait pas envie que son image soit associée à la malbouffe et à la promotion des paris sportifs. Ce sont ses termes. Maxime, toi, t'étais pas du tout regardant sur les sponsors?
Après, c'est toujours Maxime, il prenait, hein. S'il a un sponsor, déjà, il est content.
Ah, c'est toujours l'aspect financier, hein, qui parle, hein. Tu l'as, t'as bien compris, Flo. Non, non, alors, évidemment, si on avait associé mon image à une cause que je ne soutiens pas, je pense que je serais monté au créneau et je comprends Mbappé, je comprends Cherki, voilà, aujourd'hui. Ils sont contre ça. C'est vrai que le fait que la Fédé leur impose, entre guillemets, c'est ça, hein, en tout cas ne leur laisse pas le choix, je comprends que ça puisse être un problème. Moi, je vais être très honnête avec toi, Karine, quand j'étais joueur et que j'avais l'opportunité de pouvoir signer des contrats de sponsoring, bah, j'y allais. Et
oui, tu prenais pas les sous, mais t'étais pas regardant.
Oui, bon, en même temps, on n'avait pas les mêmes salaires que Kylian Mbappé et que les joueurs de l'équipe de France. Hein, mais bon. Ouais, donc, non, en ce qui me concerne, t'inquiète pas. Ramène-moi des contrats de sponsoring, je les prends.
Oui, t'es très honnête, effectivement. Non, mais de toute façon, on se souvient aussi à l'époque de 98, quand ça a vraiment explosé, il y en avait qui étaient très forts pour avoir des
d'ailleurs,
sponsoring.
Je pense que c'est à la suite de ça que le footballeur est devenu un peu bankable pour les marques, hein. Tu parlais de Kylian Mbappé, c'est vrai que c'est une image, c'est un exemple pour les jeunes, et c'est vrai que d'avoir une image, ou en tout cas une marque avec Mbappé qui est associée, forcément c'est une plus-value pour la marque qui a la chance de pouvoir avoir les joueurs de l'équipe de France en tant que tel. Mais voilà, écoute, c'est pour parler un peu plus généralement, c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on en soit à ce genre de débat aujourd'hui, à quelques jours de l'entrée en lice de la France à la Coupe du Monde. Écoute, ça, on l'avait dit un peu plus tôt, Flo, je ne sais pas si tu te souviens, comment j'avais dit que ça puait un peu 2002. Alors, je ne veux pas être trop défaitiste, hein, parce que c'est un peu un scénario qui... Si, ouais, exactement, quand tu regardes, il y a quand même pas mal de similitudes. Mais c'est vrai qu'entre ce qui se passe au niveau de l'extra-sportif, ça me rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé avec Marcel Desailly et compagnie, où on a le sentiment que les joueurs en 2002 étaient quand même plus focus sur l'extra-sportif que sur le terrain. Et bien, écoute, quand je fais le parallèle aujourd'hui avec ça, le premier match France-Sénégal, j'attends de voir. Je répète encore une dernière fois, je suis 100% derrière la France, mais j'ai bien peur qu'on ait quand même quelques signes qui me font dire que ça risque d'être une compétition plus compliquée que ce qu'on pensait au mois de mars, quand tout le monde, l'opinion publique en règle générale, voyait déjà les Français champions du monde.
Mais on va quand même rassurer tous nos auditeurs et auditrices. On rappelle quand même qu'en 2002, les Français logés dans un hôtel où il y avait notamment un casino, était ouvert au public, donc Flo, tu peux nous raconter toutes les coulisses. C'était pas propice au travail, hein.
Parce que la légende dit que les joueurs avaient tendance, Flo, à être un peu plus souvent au casino que.
C'est la réalité.
Ah bah d'accord, bah
Flo, il y avait plein de choses, mais on a aussi beaucoup brodé dessus. Il y avait des choses parfois qui avaient rien de fou quand ça gagne, mais qui deviennent tout de suite soulignées, surlignées quand ça perd. J'ai vu moi plusieurs fois les gars aller prendre des bières le soir, tu sais, au bar du casino, effectivement. Tu vois, les gars se balader comme ça. Comme ça ne s'est pas bien passé, derrière, j'ai lu des trucs et des papiers où on disait, tous les soirs, les gars étaient au bar. Oui, ils étaient au bar après un entraînement ou après un machin pour prendre deux bières. Honnêtement, ça change rien à ta performance. Donc, si tu veux, le vrai problème de cet hôtel, c'est qu'après, oui, par contre, dans la nuit, je me suis retrouvé, moi, dans des ascenseurs, avec des joueurs, qui n'avaient rien à faire dans la partie de l'hôtel où nous on était. Et avec des gens, avec des personnes avec qui ils n'avaient rien à faire non plus. Donc, il y avait des choses un peu surprenantes. Ouais. Mais c'était pas non plus, si tu veux, la débandade et la débauche dont j'ai parfois entendu parler.
Après, c'est ce que t'as vu, Flo, si tu me dis que t'as vu.
Oui, j'ai pas tout vu.
S'il faut.
J'ai pas tout vu non plus, hein.
Et moi, pour la petite histoire, nous, ça nous est arrivé avec Los Angeles d'aller jouer à Las Vegas. Et évidemment, à Las Vegas, les hôtels sont pleins de casinos. Et donc, les entraîneurs nous disaient, soyez intelligents, les gars, essayez de rentrer dans vos chambres assez tôt. Et ça m'arrivait de voir des joueurs à 4-5 heures du matin encore en train de jouer à la roulette. Mais c'est vrai, comment dire à un footballeur professionnel qui s'ennuie à l'hôtel, reste dans ta chambre? Bon, c'est quand même tentant, non?
Après, c'est vrai. Ouais. Mais encore une fois, quand ça se passe bien, ce sont des choses que tu tolères, parce que tu te dis qu'effectivement, quand tu es bloqué comme ça pendant 4-5 semaines, rien ne t'empêche d'aller boire quelques coups, quoi, on va dire. Et quand ça se passe mal, comme ça a été le cas dès le départ en plus, parce qu'il y avait d'autres soucis, hein. Il y avait la blessure de Zidane en 2002, il y avait d'autres choses en 2002 derrière, là oui, évidemment tout le monde leur est tombé dessus à bras raccourcis. Moi je crois surtout que il y avait un problème de sélectionneur, il y avait un problème d'usure suite au succès de 98 et 2000,
et puis il y a un problème de mentalité, Flo, tu m'enlèveras pas que bon, on va pas revenir sur ce qui s'est passé en 2002, ça fait 23-24 ans déjà, ça va vite, mais il y avait un problème de mentalité, et moi c'est le parallèle que j'avais fait avec cette équipe de France en 2026 qui a l'air de très bien vivre. Pour l'instant, tout va bien. Mais c'est vrai qu'avec des égos, avec des joueurs qui sont peut-être même les meilleurs à leur poste, hein, quand tu regardes en équipe de France, si tout va bien, on sait que ça va rouler. Si ça commence à être compliqué contre le Sénégal, avec tout ce qu'on a débattu juste avant par rapport aux facteurs justement extrasportifs, j'ai un peu peur que ça soit peut-être le déclencheur de quelque chose qu'on a vu en 2002, qu'on a vu en 2010, qu'on a mis en 2021, me semble-t-il, à l'Euro. C'est bien ça, hein, quand ils perdent contre la Suisse. Enfin, voilà. Écoutez, restons positifs et optimistes. Cette équipe de France a énormément de talent. Mais restons aussi prudents.
Il y a plein de contre-exemples. Effectivement, par exemple 2014, les Pays-Bas étaient dans un hôtel à Ipanema qui était ouvert au public. Je croisais très souvent Schneider et Robben. Ils ont fini troisième, vous voyez, de la Coupe du Monde. Donc évidemment,
il n'y a pas. Karine, juste un détail.
Il n'y a pas de recette miracle.
À Vittel avec les Croates en 98. Ils étaient au casino avec moi. J'étais avec Souker au casino le soir. Il y avait une petite camionnette qui les récupérait. À minuit, même pas très tôt, tu vois. Et ils étaient super sympas. Ils sortaient le soir, ils allaient manger des pizzas, ils revenaient à leur hôtel au Club Med de Vittel. Et derrière, ils ont fait demi-finale et troisième de la Coupe du Monde 98.
Exactement. Donc, il y a des exemples, effectivement, de joueurs décontractés au contact du public et qui brillent lors d'un mondial. Dans quelques instants, les informations du jour. On parlera de Balerdi, pas de Coupe du Monde après sa saison cauchemardesque avec l'OM. Montagnier qui n'est plus l'entraîneur de Saint-Etienne. Et puis, point sur les matchs amicaux avant la Coupe du Monde. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Karine Galli.
23h49, vous êtes sur RMC. L'afterfoot jusqu'à minuit avec Maxime Chano et Florent Gautreau. Un petit point sur les matchs amicaux. Vous le savez, tout le monde est en préparation avant la Coupe du Monde. RMC radio officielle du mondial du 11 juin au 19 juillet. Vous avez également la possibilité de découvrir les 48 podcasts qui sont évidemment une revue de toutes les nations qualifiées pour cette Coupe du Monde. Direction YouTube pour découvrir tout ça. La Belgique a gagné largement 5-0 face à la Tunisie. Succès du Portugal 2-1 face au Chili. Les deux équipes ont eu un expulsé. Nous avons eu également la victoire de l'Allemagne 2-1 face aux États-Unis. Les États-Unis de Pochettino. On rappelle que les States sont évidemment l'une des nations qui sont organisatrices de cette Coupe du Monde. Oui.
Un but incroyable hein, d'ailleurs des États-Unis.
Ouais, je les sens pas hein, les Américains. Hein. C'est malgré le fait qu'ils reçoivent cette compétition, qu'ils l'organisent. Je les trouve beaucoup moins bons qu'il y a 4 ans.
Et en tout cas, il est sous pression, Pochettino, avec donc ce but de Robinson dont tu parles. La Suisse et l'Australie ont fait un but partout également entre le Panama et la Bosnie-Herzégovine. Et puis ça joue également actuellement. L'Angleterre, pour l'instant, mène 1-0 face à la Nouvelle-Zélande. Et c'est Harry Kane, évidemment, qui a inscrit le but. L'Écosse mène 4-0 face à la Bolivie. Et on vous donnera évidemment un petit peu tous les résultats par rapport à cette préparation. On rappelle que quasiment toutes les équipes ont fait la même chose. Première équipe, c'est un adversaire qui est qualifié également pour la Coupe du Monde. Et le deuxième match, quand il y a un deuxième match, c'est une équipe qui ne s'est pas qualifiée pour le Mondial.
Oui. Juste un truc sur les AO quand même, parce que c'est une image étonnante hein, dans un match amical. Bagarre quasi générale, enfin c'était un peu particulier. Et les AO, il faut quand même suivre. Il ne va évidemment pas être suspendu plus d'un match, donc ça va être le match amical à venir. Mais par rapport au staff, par rapport à l'équipe du Portugal, c'est pas totalement anodin. On va voir comment le staff réagit à ce qu'il a fait, parce que il a eu une attitude assez virulente. C'était assez chaud là avec les Chiliens. J'ai regardé ça. C'est pas quand même un très bon signal non plus.
Effectivement, vrai, non, mais ça n'a rien à faire avant une préparation de Coupe du Monde.
Ouais, mais il y a un peu de pression, il y a un peu de tension. Enfin, tu vois, ça peut être compréhensible. Attention, ça ne devrait pas arriver sur un terrain de foot. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais après, le footballeur reste un humain. On le voit en championnat. Alors pourquoi pas en match amical après?
Oui, mais je suis d'accord avec toi. T'as qu'un objectif, c'est la Coupe du Monde.
Bien sûr,
et pas de blessé, en fait.
Compris que c'est complètement stupide de faire ça. L'image, déjà, que tu renvoies de toi, de ton équipe, de ta nation, c'est clair. Après, voilà, ça fait aussi partie du jeu, malheureusement. Et puis surtout, le footballeur reste humain.
il sait que l'enjeu est important parce qu'il a, il s'est justifié hein, après le match en disant qu'il voulait protéger son coéquipier, pas blesser l'adversaire. Ouais. Il a parlé des supporters. Enfin, tu vois, je pense que comme s'il a agi comme ça, t'as raison, c'est qu'il doit y avoir de la
attention,
de la concurrence interne, ouais, et de l'attention jouer, pour les places de titulaire.
Ouais. Et puis tu sais, c'est intéressant que tu dises ça, Flo, par rapport à la concurrence interne. On a toujours le sentiment, l'opinion publique. Elle a toujours l'impression que le groupe, tous les joueurs sont amis, mais c'est pas du tout le cas. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, à un ou deux matchs justement du début de la compétition, mais il y a encore des postes et des positions de titulaires qui vont se créer, qui se jouent. Et c'est vrai que parfois, mais t'as tendance à être tendu aussi parce que tu joues ta place, tu joues justement peut-être ta compétition. Et moi, je me souviens, alors c'est différent parce que j'ai jamais la chance de jouer une grande compétition, mais toujours à l'approche du début de championnat, les dernières semaines c'est toujours un petit peu tendu parce que justement t'as cette espèce de concurrence en interne qui parfois peut pourrir un groupe. Bon, on va voir ce que ça donne côté portugais. On sait qu'ils sont armés pour faire une belle compétition intrinsèquement, ils ont une superbe équipe, mais ça peut expliquer aussi justement réaction de Léon.
L'équipe bien. Moi j'ai vu, il y a des choses super. Bruno Fernandes très bon.
Individuellement le Portugal c'est top. Après c'est vrai que défensivement c'est un petit peu le point d'interrogation aussi, un peu à l'instar de l'équipe de France. Je sais pas ce que t'en penses, Flo, mais c'est vrai que alors aussi la grande question c'est de savoir si Cristiano va débuter.
Il sera titulaire, oui, il l'a dit, hein, Roberto Martinez.
Vrai qu'il avait prêché quand même Cristiano Ronaldo encore peut-être présent dans 4 ans. Donc
oui,
ça voudrait dire
donc pour lui il est capitaine.
Ouais.
Voilà. Et il était effectivement une nouvelle fois titulaire et capitaine là lors de ce match et il compte absolument sur lui. Messieurs, d'autres informations également. Leonardo Balerdi, c'est vraiment la saison de l'angoisse pour lui. Évidemment, il est en grande difficulté avec Marseille, il a perdu son brassard cette saison, il était dans le groupe argentin pour participer à la Coupe du Monde, et bien il s'est blessé au mollet droit lors de l'entraînement et donc il est forfait pour le Mondial. C'est vraiment la saison, mais à oublier, Flo, c'est terrible. Et c'est aussi important pour Marseille parce que l'idée c'était de le vendre. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas les croisés, mais quand même.
Oui, non, ça, pour la vente, oui, c'est pas un souci. En revanche, j'ai envie de te dire que psychologiquement, je suis quasi persuadé qu'il y a, avec toute la saison qu'il a vécue, peut-être là aussi par rapport à ce dont on a parlé sur la concurrence interne, sur la pression qu'il y a avant une Coupe du Monde, je pense que ce gars-là, Balerdi, il a sans doute plein de qualités. Il y a plein de coachs qui lui ont vu plein de qualités. On a vu aussi, nous, beaucoup de ses défauts. Il a, psychologiquement et en termes de, on va dire, de mental, il a une faille à un moment donné. Et moi, je vois toujours un lien entre la blessure physique et le mental. Et Balerdi, cette saison-là, il n'avait pas les épaules et surtout le mental pour résister à tout ce qu'il a traversé. Donc, je suis désolé et déçu pour lui. Moi, j'ai déjà surpris, d'ailleurs, qu'il soit sélectionné, hein, qu'il soit dans la liste d'Argentine. Mais bon, voilà, c'est une saison à oublier pour lui. Et effectivement, il sera sans doute, il va être vendu de toute façon, quoi qu'il arrive.
D'autant plus qu'il se blesse à l'entraînement. Hein, il se blesse au mollet. Enfin, tu vois, c'est pas un coup. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi la saison. La saison est longue, hein, pour tous les joueurs, hein, pour les joueurs de l'Olympique de Marseille comme pour d'autres. Mais c'est vrai que quand tu regardes très, très rapidement, les Marseillais entre la Ligue 1, la Champions League, les matchs d'amicaux ou les matchs de qualification pour les internationaux, mais ça fait beaucoup aussi. Ça fait beaucoup aussi. Il faut en plus de ça digérer un petit peu les températures aux États-Unis parce qu'on sait que les Argentins ont plus s'entraîné au Texas. Il fait très très chaud au Texas en ce moment. Donc voilà, ceci explique peut-être cela, mais c'est vrai qu'il y a des saisons comme ça, des saisons noires entre guillemets pour les joueurs, et c'est bien le cas pour Leonardo Balerdi.
Une petite information que je trouve assez sympa. Vous savez que Camavinga n'a pas été retenu avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde, et il est quand même allé aux États-Unis au mois de juin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a validé une formation de quelques jours à la Harvard Business School. Ouais, il est allé à Harvard.
C'est beau ça, c'est beau. Bravo à lui. Après, ça dépend pour faire quoi derrière.
Il a fait une petite formation. Ouais, voilà.
Une formation pour quoi? Pour
quelques jours d'apprentissage, d'écoute et de croissance.
D'accord. Croissance, pas croissant.
Croissance.
Ouais, d'accord.
C'est ce qu'il a écrit sur ses réseaux sociaux. Non, mais franchement, c'est original.
Ça se fait de plus en plus. Hein. Ça
oui,
se fait de plus en plus.
Mais c'est, on n'a pas eu beaucoup de footballeurs forcément qui sont allés faire une petite formation.
C'est une formation dans le domaine du divertissement et du sport qui est proposée par. Alors, c'est à Boston d'ailleurs.
Bien sûr.
C'est ça.
Je suis allé la visiter en mars dernier. Magnifique.
Ouais, il n'est pas loin de l'équipe de France. Il n'était pas loin de l'équipe de France.
Mais c'est la grande tangente maintenant des sportifs professionnels, même des footballeurs. Tu en as de plus en plus qui utilisent un petit peu leur temps libre pour aller se former, que ça soit aux États-Unis, que ça soit avec l'UEFA, avec la FIFA. Moi, je sais que j'ai beaucoup de collègues et d'ex-collègues qui n'hésitent pas justement un peu à prendre le contre-pied de ce qu'on pensait des footballeurs professionnels pendant X années, où est-ce que justement ils essaient d'utiliser leur temps libre pour essayer de se former, parce que la précarrière aussi arrive vite. Et c'est vrai que
Maxime, il a pris la formation After Foot.
Tu sais qui étaient mes professeurs, Flo. Voilà. T'en fais partie. Donc, merci. Si tu me trouves moyen, c'est de ta faute.
Donc, il a pris en tout cas quelques jours pour aller faire une petite formation.
Ça m'aide bien.
Moi, je trouve ça très chouette comme.
C'est un gars qui a la tête sur les épaules et les oreilles bien ouvertes sur ce qu'il faut faire. Et c'est un mec intelligent, c'est super. T'as raison, Karine, c'est intéressant.
Ça envoie un beau message, en tout cas. Ouais. C'est vrai que tous les jeunes qui regardent le ballon, qui ont tendance à uniquement se focus un petit peu sur le terrain et sur le footballeur professionnel en lui-même, ça montre aussi et ça prouve que voilà, certains footballeurs ont quand même la tête sur les épaules.
Ça change, en tout cas, ça dénote. Un dernier mot, messieurs, c'est Philippe Montagnier qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Il avait un contrat jusqu'à la fin du mois. L'idée, c'était évidemment qu'il fasse remonter Saint-Etienne en Ligue 1. Ça n'a pas été le cas. Ils se sont arrêtés au niveau des barrages. Est-ce que vous avez envie de revoir Montagnier sur un poste en Ligue 1 ou en Ligue 2? Parce que quand même, globalement, ce qu'il a fait, c'est pas mal, mais il a raté un petit peu la dernière marche.
Ouais, moi je suis pas fan, convaincu. C'est pas que je suis pas fan. J'aime beaucoup Philippe Montagnier pour plein de raisons, mais tu vois là ce que j'ai vu de Saint-Etienne, même avec lui sur la fin de saison, y compris sur le barrage, j'ai trouvé ça juste. Alors on peut parler de l'effectif, hein, évidemment, il y a pas que Philippe Montagnier. Je sais pas. J'ai l'impression que aujourd'hui il faut être un peu plus inventif aussi dans ta recherche de coach. Parfois, tu sais, pour aller trouver des coachs capables de bonifier des effectifs parfois un tout petit peu juste, et j'ai pas eu la sensation que ce soit le cas sur la fin de saison.
Dernier mot, je veux te faire réagir, Maxime, sur Dujeu. Nous étions hier soir avec le président de d'Angers, Saïd Chaban. Dujeu qui est parti, qui a été libéré, on l'annonçait plutôt à Nice, et finalement il serait dans la shortlist de Lorient. Tu trouves que ça serait une belle progression pour lui?
Belle progression, oui, dans la mesure où tu sais qu'Angers, c'est le plus petit budget de Ligue 1. Donc, à partir du moment que tu vas dans un club qui a un peu plus de moyens, ça peut être une progression. Après, passer derrière Pantaloni et Cahuzac qui ont fait un superbe travail en emmenant cette équipe de Lorient là où est-ce que personne pensait qu'il terminerait, avec une série d'invincibilité, je pense, de 13 ou 14 matchs. Enfin, bref, ça, c'est une petite parenthèse. Pourquoi pas? Moi, je pense que Dujeu a énormément de qualité, qu'il a un profil pour justement faire jouer des équipes un peu plus huppées, entre guillemets. Après, voilà, bah, écoute, le plus important, c'est qu'il retrouve un banc et surtout qu'il puisse se montrer pour derrière faire un step supplémentaire pour aller chercher une équipe du top 5 en Ligue 1.